VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Dans quelques minutes, le magazine au féminin, préparé et présenté par Nathalie Barge. Mais juste avant, le point de l'actualité. Au Burundi, 4 personnes ont été tuées aujourd'hui, dont une dans la commune de Gisozi. C'est le premier décès hors de la capitale, Bujumbura, secouée depuis plusieurs jours par des manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Idriss Fall a joint sur place notre confrère Léon Massengo de la radio Mbonesha.
Les manifestations contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza ont continué. Ce jeudi, 4 personnes sont mortes. 2 personnes dans la commune urbaine de Cibitoki, dans le nord de la capitale Bujumbura, emportées par les explosions de grenades selon les témoins et la police. 7 personnes ont été grièvement blessées au cours de ces explosions. Une personne est morte dans une scène de justice populaire à Nyakabiga, soupçonnée d'être un jeune Imbonerakure du parti au pouvoir. Ce jeune a été lancé, puis tué dans une pluie de jets de pierre avant d'être brûlé en pleine journée. 4 ministres se sont déplacés pour appeler au calme, à l'apaisement dans la province de Moaro. Un élève de 16 ans est mort tué par des balles tirées par un policier lors d'une manifestation. Plusieurs routes étaient bloquées ce jeudi dans les quartiers de la capitale Bujumbura. 2 véhicules ont été brûlés parce que les chauffeurs n'ont pas obéi à leurs ordres.
Notre confrère Léon Massengo de la radio Monesha au Burundi. Sachez aussi que la présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, s'est prononcée aujourd'hui en faveur du report de la présidentielle au Burundi. Elle a déclaré à Addis Abeba que l'Union africaine n'enverra pas d'observateurs au Burundi pour le vote du 26 juin. Au moins 13 personnes sont mortes depuis le début des protestations le 26 avril, le jour où Pierre Nkurunziza a annoncé son intention de briguer un troisième mandat. Les manifestations de l'opposition ont encore dégénéré en Guinée. À Conakry, la capitale, des heurts ont opposé les forces de l'ordre et des jeunes protestant contre le calendrier électoral. C'est ce que rapporte l'AFP. Ces violences interviennent alors qu'une rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, l'ex-premier ministre Sélouda Alain Diallo, est prévue demain. Malgré l'annonce de ce premier tête-à-tête politique en 3 ans, l'opposition a maintenu ses appels à manifester. Retour au calme à Cotonou, au Bénin, suite aux manifestations d'hier. Une 20aine de personnes ont cependant été interpellées lors d'affrontements entre la police et des manifestants proches de l'opposition. C'est ce qu'affirment leurs avocats et les sources policières citées par l'AFP. La manifestation avait été interdite par les autorités. Mais des centaines de manifestants étaient quand même descendus dans les rues du centre-ville. Un important contingent de forces de l'ordre qui les y attendait a fait usage de gaz lacrymogène et reçu des jets de pierre en retour. L'opposition a promis de nouvelles actions dans les jours à venir. Accusation de viol de militaires français sur des mineurs en Centrafrique. La justice française accélère. Ce jeudi, le procureur de la République à Paris a annoncé que des juges d'instruction allaient enquêter sur cette affaire. On écoute Nicolas Pinault.
Oui, le procureur François Molin explique que l'information judiciaire a été ouverte pour viol sur mineur par personne abusant de l'autorité conférée par leur fonction et complicité de ce crime. Dans cette affaire, 14 militaires français sont mis en cause. 3 ont déjà été identifiés par les témoignages de 6 enfants centrafricains âgés entre 9 et 13 ans au moment des faits. Ces militaires français faisaient partie de la force Sangaris déployée à l'aéroport Mpoko de Bangui. C'est la 2e fois que le parquet de Paris s'intéresse à cette affaire. Après avoir été saisi par le ministère français de la Défense, le parquet avait ouvert une première enquête préliminaire fin juillet 2014. Aucun enfant ni aucun militaire mis en cause n'avait été entendu. Dans son communiqué, le parquet explique qu'il a d'abord voulu entendre la fonctionnaire de l'ONU, rédactrice du rapport, mais que la demande de levée d'immunité nécessaire à cette audition a été refusée par les Nations Unies. La fonctionnaire onusienne a finalement répondu par écrit et cette réponse est arrivée le 29 avril, selon le parquet.
Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef de milice Charles Blé Goudé, son allié, s'ouvrira le 10 novembre, a annoncé aujourd'hui la Cour pénale internationale. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. En Méditerranée, la marine italienne dit avoir repéré l'épave du chalutier à bord duquel plus de 700 migrants ont trouvé la mort le mois dernier. Le bateau a été localisé au nord des côtes libyennes. Les évêques du Mali en visite au Vatican. Le pape François salue l'engagement commun des chrétiens et des musulmans pour la sauvegarde des trésors culturels du Mali, confrontés à la poussée djihadiste.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le reste du monde, les États-Unis et l'Arabie Saoudite préconisent une trêve de plusieurs jours au Yémen pour faciliter la distribution de l'aide humanitaire. Bagassi Koura nous en dit plus.
Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue saoudien Abdel Al-Jubier ont indiqué que les efforts étaient en cours pour mettre en place un cessez-le-feu de 5 jours au Yémen afin de pouvoir acheminer l'aide humanitaire. Ce cessez-le-feu serait renouvelable en fonction des conditions sur le terrain, ont-ils précisé. Pour John Kerry, la trêve dépend largement de son acceptation par les rebelles houthis. Nous exhortons les houthis et ceux qui les soutiennent, à qui nous suggérons d'utiliser toute leur influence, de ne pas manquer cette importante opportunité de répondre aux besoins de la communauté yéménite et de trouver une solution pacifique au Yémen. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a reconnu qu'il n'y avait pas encore eu de contact avec les houthis pour savoir s'ils accepteraient le cessez-le-feu.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé un nouveau gouvernement de coalition. Le cabinet a été annoncé mercredi soir après un accord de dernière minute avec l'extrême droite, juste avant l'échéance de minuit. Félix Yepassi-Zembro.
La formation du nouveau gouvernement intervient après 7 semaines de négociations. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a été désigné pour former le gouvernement après que son parti, le Likoud, eut défait aux élections de mars l'alliance de l'opposition menée par le Parti travailliste. Le chef de file des travaillistes, Isaac Herzog, avait déjà dit qu'il ne ferait pas partie de la nouvelle coalition. Le nouveau gouvernement s'appuie sur une marge majoritaire d'un seul siège au Parlement avec 61 députés. Monsieur Netanyahou avait espéré former une grande coalition, mais son ancien allié de droite, le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a fait faux bond lors des négociations. En conséquence, M. Netanyahou a été obligé de s'allier avec les partis religieux ultra-orthodoxes et l'aile dure du parti Israël, notre nation, de l'ancien ministre de l'économie, Naftali Bennett, qui préconise l'expansion des colonies juives et l'annexion de la Cisjordanie palestinienne. Le nouveau gouvernement suscite peu d'espoir quant à une relance du processus de paix au Moyen-Orient. Celui-ci est au point mort depuis l'effondrement, il y a un an, de négociations parrainées par les États-Unis et la guerre de 50 jours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. La campagne électorale en Israël avait surtout porté sur les questions intérieures telles que la hausse du coût de la vie et l'écart croissant entre riches et pauvres.
Réaction ici à Washington, le président Barack Obama a félicité le peuple israélien, le premier ministre Netanyahou et la nouvelle coalition pour la formation de ce nouveau gouvernement, dit la Maison-Blanche dans un bref communiqué. Dans les territoires palestiniens occupés, le Fatah comme le Hamas ont immédiatement dénoncé un gouvernement d'union pour la guerre et contre la paix. Le Sénat américain devait voter aujourd'hui pour obliger le président Barack Obama à soumettre tout éventuel accord nucléaire avec l'Iran au Congrès cet été. Un vote de procédure, mais capital, était prévu pour 18h GMT. L'adoption finale pourrait se faire aujourd'hui également. Un vote similaire est prévu la semaine prochaine à la Chambre basse. Entre-temps, Téhéran et les puissances mondiales s'apprêtent à reprendre leur pourparlers mardi prochain. Arrestation en Turquie de 5 personnes soupçonnées d'avoir participé l'an dernier à la livraison illégale d'armes à la Syrie. Un procureur et 3 adjoints de la région d'Adana dans le sud du pays ont été arrêtés et ont comparu devant le tribunal local. Un ancien colonel a également été arrêté du fait de son rang de plus haut gradé de la région, indique l'AFP, citant l'agence turque Anatolia. La collecte clandestine de données téléphoniques des Américains est illégale, allant bien au-delà de l'autorisation votée par le Congrès. C'est le verdict rendu aujourd'hui par une cour d'appel fédérale à New York. La décision des 3 juges fait suite à un procès intenté par l'American Civil Liberties Union contre la NSC, l'Agence nationale de sécurité, concernant la collecte de plusieurs millions de données, telles que des numéros de téléphone privé. Le contenu des appels, toutefois, n'est pas retenu par la NSC. Cependant, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la constitutionnalité de cette pratique. Comme annoncé, dans quelques instants, le magazine Au Féminin. Washington, pour les Nouvelles du Monde, chez Romain Dorsil.
au cœur